Et le titre du message ce matin, cet après-midi, c'est le chemin de la dépendance. Le chemin de la dépendance. Et on va regarder, un texte se trouve dans Josué chapitre 6, verset 11. Gédéon chapitre 6, verset 11. C'est pour savoir si vous vous suivez en fait. C'est bien, ça suit, c'est génial. Avant de lire le texte, est-ce que Dieu t'a déjà demandé de faire quelque chose, mais que tu te sens pas capable de le faire? Waouh, on n'est que 5 dans la salle. Tout le reste, c'est des menteurs. Par exemple, Dieu te demande de témoigner à ton voisin ou de parler de Jésus à un membre de ta famille qui ne connaît pas Jésus, qui ne sait pas que toi-même, tu connais Jésus. Il n'y a personne dans ta famille qui connaît Jésus et toi, tu vas parler de Jésus. Ou peut-être écrire un bouquin. Je te dis d'écrire un livre. Mais est-ce que tu te sens capable de le faire? Dieu te dit de créer ton entreprise, de développer ton entreprise. Est-ce que j'ai toutes les capacités nécessaires pour le faire? Et cet après-midi, on va en parler d'un personnage biblique, vous l'avez compris, Gédéon, qui en fait, moi, il m'encourage énormément quand je regarde à sa vie en fait. C'est un jeune homme qui ordinaire, qui n'est pas sûr de lui, qui n'est pas sûr de lui du tout même, qui se cache, qui a peur, qui est découragé, qui a peu de compétences, qui se déprécie, qui est sceptique, et en plus de ça, personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Mais Gédéon a dû apprendre quelque chose. Il a dû apprendre à ne pas compter sur ses propres forces, mais à totalement dépendre de Dieu, totalement dépendre de celui qu'il avait appelé. Et nous allons voir ensemble le processus d'où Dieu nous amène à dépendre de lui dans notre faiblesse. Et on n'aime pas ce mot parfois, on parle de faiblesse, on n'aime pas. On n'aime pas, je parlais avec quelqu'un qui me disait au téléphone, un frère qui me disait « Ah mais moi j'aime pas ce mot faiblesse, j'aime pas. » Mais moi aussi j'aime pas ce mot. Mais la réalité, c'est que bien souvent, nous nous sentons faibles. La définition du mot, mot dépendance, c'est une perte d'autonomie. La Bible nous dit que la dépendance, pas la Bible, le dictionnaire, l'état d'une personne qui a besoin d'être aidé pour l'accomplissement des actes essentiels de vie ou requiert une surveillance régulière. Un synonyme, c'est attaché, tributaire. Et quand on regarde au mot dépendance, son contraire, c'est indépendance. OK, tout le monde me suit? Ça va, c'est juste, super. J'étais loin en français. Hein. Le mot, c'est l'inverse, c'est indépendance. Et l'indépendance, c'est je veux faire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux. Et le mot dépendance, c'est « je ne peux pas faire ce que je veux ». Et quand on regarde un enfant, j'ai 3 enfants, donc je sais, un enfant de 5 mois, il n'est pas capable de se nourrir tout seul. J'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Il n'est pas capable de changer sa couche tout seul. Il n'est pas capable de marcher tout seul au début. Il n'est pas capable, mais au fur et à mesure, il va grandir. L'enfant, il va grandir, et à un moment donné, il va dire « je veux faire moi ». Je veux moi. Au fur et à mesure, il va chercher son indépendance. Il y a des enfants qui comprennent ce que je dis. C'est ça. Mais dans le royaume de Dieu, lorsqu'on est enfant de Dieu, en fait, plus on grandit dans notre relation avec Dieu et plus on apprend à dépendre de Dieu. En fait, la maturité avec Dieu, c'est l'inverse. C'est plus je suis dans ma relation avec Dieu, je deviens mature et plus je deviens dépendant de Dieu dans tout ce que je fais. Dans tout ce que je fais. Et accepter le processus de Dieu, donc, c'est quoi? C'est apprendre à dépendre totalement de lui dans tous les aspects de ma vie. Et dans ce chemin de dépendance à Dieu, on va voir que Gédéon s'est posé plein de questions, notamment 3 questions. Avec moi, avec quoi et avec qui? Et on va voir ensemble tout de suite l'histoire de Gédéon. Et avant ça, c'est important de se rappeler dans quel contexte Gédéon était. Dans un contexte de guerre, Gédéon était dans un contexte où le peuple d'Israël était asservi, où le peuple d'Israël était sous la menace madianite, où le peuple d'Israël, pendant des siècles et des siècles, ils ont fait comme un cycle avec Dieu, comme un yo-yo avec Dieu, comme un yo-yo spirituel. Ils criaient à Dieu pour que Dieu les délivre. Et quand Dieu envoyait un libérateur, qu'est-ce qu'il faisait ? C'est qu'il y avait un temps de paix, mais après, il retournait vers les idoles. Il s'éloignait de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, cet après-midi, que Dieu veut briser ce cycle dans ta vie. Dieu veut briser ce cycle où tu reviens à Dieu, tu cries à Dieu, « Seigneur, aide-moi !» et après tu t'éloignes de Dieu. Mais Dieu veut le briser cet après-midi. Il veut le briser cet après-midi, que tu redeviennes dépendant de lui complètement. Dieu veut t'amener à un autre niveau. J'arrête, je ne veux pas crier à Dieu seulement lorsque j'ai un besoin financier, mais je veux crier à Dieu lorsque, oui, j'ai des finances, mais je veux savoir, Seigneur, qu'est-ce que j'en fais ? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec ? Quelqu'un est avec moi ? J'ai besoin de toi, Seigneur, dans mes victoires et dans mes défaites, dans l'abondance comme dans la disette. Juges, chapitre 6, verset 11. L'ange de l'Éternel vint au village d'Ophra. Il s'assoit sous l'arbre sacré qui appartient à Joash du clan d'Abiézer. Gédéon, le fils de Joash, est en train de battre le blé, là où d'habitude on écrase le raisin. Ainsi, les Madianites ne pouvaient pas le voir. L'ange de l'Éternel se montre à Gédéon et lui dit « Seigneur, le Seigneur est avec toi, combattant courageux. » Avant de parler de Gédéon, regardons un tout petit peu à l'ange. L'ange de l'Éternel, il vient s'asseoir tranquillement. Il vient s'asseoir à côté de Gédéon. Mais Gédéon ne le voit même pas. Il est là. Il s'assoit dans le silence. Il le regarde attentivement. Il regarde tout ce qu'il fait. Mais Gédéon ne le voit pas. À ce moment-là, il est invisible pour Gédéon. Et j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que même si dans ta vie, il semble que Dieu ne dise rien, que même si dans ta vie, il semble que tu ne le vois pas, j'aimerais te dire que les regards de Dieu sont sur toi. Comme pasteur Mathieu a dit tout à l'heure, le regard de Dieu est sur toi. Même si tu n'entends pas sa voix, tu as un moment où, Seigneur, j'aimerais t'entendre. Seigneur, j'aimerais te voir plus. J'aimerais t'entendre, mais tu n'entends pas. Mais Dieu te dit, je suis avec toi. Même si tu n'as pas sa voix, son regard est sur toi. Même si tu n'as pas sa voix, ses oreilles sont attentives à ce que tu es en train de dire. Et Dieu est en train de dire, même si ce n'est pas mes oreilles, même si ce n'est pas ma bouche, je suis là, c'est Dieu. Même si ce n'est pas sa voix, ses oreilles, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. À un moment donné, donc l'ange regarde Gédéon et le regarde attentivement à ce qu'il est en train de faire. Et Gédéon, qu'est-ce qu'il fait ? Il est au pressoir en train de battre du froment. Ce n'est pas très compliqué. Le pressoir, c'est pour le raisin. Et là, il est à l'endroit où on fait du raisin, mais il bat le froment, donc rien à voir. C'est comme si on est en train de pour laver du linge, mettre du linge dans du lave-vaisselle. Normalement, le lave-vaisselle, ce n'est pas trop l'endroit pour faire son linge. On est d'accord, mesdames ? Voilà, je veux. Voilà, de suite. C'est une blague. C'est une blague. Moi aussi, je fais des machines des fois. Et Gédéon est au mauvais endroit. Pourquoi ? Parce que Gédéon est en train de se cacher. Parce que Gédéon se cache. Et il a peur. Il a peur parce qu'il ne sait pas à quel moment, mais la menace est là. Les Madianites peuvent débouler d'un jour à un autre. Ils peuvent venir, ils peuvent enlever tous les vivres, ils peuvent enlever tous les animaux, tout le bétail, toute la moisson. Ils peuvent venir enlever tout et laisser juste le peuple avec de la famine et rien du tout. Sans rien. Et Gédéon a peur. Il dit, ils peuvent débarquer du jour au lendemain, donc je vais à un endroit où moi je suis sûr, je me cache, je me protège de la menace. Mais à un moment donné, l'ange va parler et va lui dire, l'Éternel est avec toi, combattant courageux. Alors que Gédéon se cache, il est en train de lui dire « Arrête de te cacher. C'est pas ta place, Gédéon. C'est pas ta place. Il est fini le temps de te cacher. » Il est en train de dire « Le temps où tu te cachais est terminé. La séquence où tu te cachais est terminée. Maintenant, tu dois briller. » Maintenant, tu dois sortir de ton trou. Maintenant, tu dois sortir de là où tu es. Et j'aimerais dire ça à quelqu'un. C'est fini le temps de se cacher. C'est fini le temps où l'ennemi commençait à t'oppresser et t'oppresser et t'oppresser. Maintenant, c'est le temps que Dieu veut te révéler. Le temps où tu dois sortir de ta peur, de cette prison là où il était Gédéon, la prison de la peur. Dieu lui dit, il est temps. Il est temps, Gédéon. Dieu dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, combattant courageux. Quand on regarde de plus près, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait, Gédéon? Qu'est-ce qu'il a fait? À ce moment-là, il n'a rien fait. Il se cache, il a peur. Il n'a rien fait du tout. Mais Dieu, il n'a encore rien accompli. Mais Dieu le voit déjà dans les œuvres qu'il a préparées pour lui. Dieu le voit déjà comme un héros. Dieu le voit déjà comme un vaillant guerrier. Et Dieu, quand il te regarde cet après-midi, il ne voit pas juste Francis. Non. Il voit le vaillant héros que tu es. Il voit le vaillant héros que tu es. Alors dis à ton voisin, vaillant héros, Dieu te voit comme un vaillant héros. Arrête de te regarder comme un zéro, mais regarde-toi comme un héros. Dieu dit à Gédéon, réveille-toi. Réveille-toi. En l'appelant vaillant héros, il veut qu'il le réveille. Ce matin, tu peux dire à ton voisin, réveille-toi, vaillant héros, réveille-toi. Réveille-toi. Juges 6, 15. De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est la plus, est peu importante, est la plus petite, certaines versions. Certaines versions vont dire la plus pauvre dans la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus jeune des fils de mon père. Comment est-ce que Gédéon se voit? Gédéon se voit comme insignifiant. Je suis le plus petit des plus petits, des plus petits, des plus petits. Voilà comme Gédéon se voit. Et comment toi, tu te vois? Est-ce que tu te vois petit, petite, insignifiant, faible, pauvre, pas capable, indigne? Dieu ne peut pas m'utiliser à moi. Ne peut pas. Je ne suis pas assez. Et Gédéon était le plus petit de sa famille. Et peut-être, comment notre famille nous voit? Comment nos amis nous voient? Comment les gens autour de nous nous voient? Peut-être notre propre famille nous méprise. Ça me rappelle l'exemple de David avec Eliab. David avec Eliab. Eliab, David alors que c'est un jeune, le plus jeune de sa famille. Il va apporter de la nourriture à l'armée d'Israël parce qu'ils avaient un problème, ils avaient un géant qui s'appelait Goliath. Et David va apporter la nourriture à ses frères. Et quand il arrive là, il dit, mais c'est pas possible ce géant, il faut le tuer quoi. Moi je le tue moi. Et son frère lui dit, mais pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? T'es un berger, toi, t'es petit, pour qui tu te prends? Et parfois, même les gens autour de nous qu'on aime et qui nous aiment peuvent mépriser qui nous sommes. On peut avoir un regard différent que le regard de Dieu sur notre propre vie. David ne s'est pas laissé impressionner, ne s'est pas laissé faire. Il a dit non, je sais qui je suis. On l'a chanté tout à l'heure. On l'a chanté, je suis victorieux. Mais est-ce que dans la vie de tous les jours, le lundi matin, on dit « je suis victorieux », on le vit vraiment? Il avait cette assurance, David avait cette assurance que Dieu était avec lui. Ta confiance en Dieu n'est pas de l'orgueil. Ta confiance en Dieu n'est pas de l'orgueil. Tu es capable de dire « oui, je suis capable en Dieu ». Ce n'est pas de l'orgueil. Par contre, en revanche, Dieu me disait un jour, ta timidité, c'est de l'orgueil caché. Oui, est-ce que tu ne veux pas parler en public? Pourquoi? Alors que J'étais en classe, il y avait un exposé à faire, fallait que je parle devant les gens. Et j'étais jeune, et puis, ben, il faut parler devant les gens, etc. Mais pourquoi, en fait? C'est quoi le problème? C'est parce que tu as peur de ce que les gens vont penser de toi? Et finalement, ça devient de l'orgueil. Tu me disais, mais ouais, c'est de l'orgueil caché, en fait. La timidité peut devenir de l'orgueil. Le plus important, ce n'est pas comme je me vois, ce que les gens pensent de moi, ce que ma propre famille pense de moi, mais qu'est-ce que Dieu pense de moi? Comment Dieu me voit? Gédéon était dans une prison de peur lorsque l'ange est venu le rencontrer. C'était un Gédéon frustré, rempli de peur et de sueur. Et la contradiction de l'ange, « Hé, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, courageux, guerrier courageux !» Mais quelle contradiction incroyable! Là où d'autres voyaient un lâche, Dieu voyait un héros. Dieu voyait un courageux. Dieu voyait un libérateur. Et j'aimerais te dire ceci. Gédéon ne se connaissait pas. Mais Dieu connaissait mieux Gédéon que lui-même. Tu ne te connais pas. Dieu te connaît mieux que toi-même. Donc, c'est lui qui a la vérité. Ce n'est pas toi-même. Ce n'est pas les autres. C'est lui. C'est lui qui te dit qui tu es. Ce n'est pas les circonstances. Ce n'est pas mon passé. Ce n'est pas comment je me sens. Ce n'est pas comment je me lève le matin. C'est lui. Amen. C'est lui. Commence à prophétiser sur toi-même. Commence à dire ce que Dieu dit. Déclare ce que Dieu dit sur toi. Même si tu n'as pas l'impression que ça c'est en train de se produire, même si tu n'as pas l'impression de le vivre, même si tu lèves le matin et que tu as une seule envie, c'est de te recoucher. Déclare ce que Dieu dit sur toi. Prophétise. Il y a quelque chose que, depuis que ma première fille, Émilie, ma seule fille d'ailleurs, Émilie, j'ai deux garçons et une fille. Et du coup, ma première fille, oh là là, j'arrête pas de le dire. Du coup, ma fille, on avait l'habitude de dire avec Laurence à chaque fois que on avait l'habitude depuis qu'elle est petite de lui dire, ma fille, tu es forte. Ma fille, tu es courageuse. Ma fille, tu peux tout faire. Et plusieurs fois, alors qu'elle revenait de l'école et il y avait quelqu'un, je me souviens très bien, qui dit, papa, cette personne-là, elle m'a dit que j'étais pas belle. Elle m'a dit que ceci, elle m'a dit cela et ça m'a troublée. Et tu lui diras que ton papa, il te dit que tu es belle, tu es forte, tu es courageuse, tu peux tout faire. Écoute la voix du père qui te dit, tu es fort. Tu es courageux, tu es vaillant, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Dieu m'a choisi, Dieu t'a choisi. Tu peux dire, il m'a choisi, il m'a taillé pour le combat, il m'a créé pour ça. Je suis choisi. Et sur ce chemin, de la dépendance, ce chemin de la dépendance. Non seulement j'accepte ce que Dieu dit que je suis, mais j'accepte également d'avancer avec ce qu'il m'a donné. Et c'est mon deuxième point. Avec quoi? Juges, chapitre 6, verset 14. « Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Mais Gédéon répliqua. De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Avec quoi pourrais-je délivrer Israël? La réponse de Gédéon, c'est qu'il pensait qu'il n'avait rien pour accomplir la volonté de Dieu. Et combien de fois j'ai pu dire cette phrase? Avec quoi, Seigneur? Avec quoi, Seigneur Jésus? Avec quoi tu m'envoies? Mais avec quoi? Sérieusement? Sérieusement? Et parfois, on peut dire, il manque tellement de choses pour me mettre en mouvement quand Dieu m'a demandé de faire quelque chose. Il y a tellement de choses quand Dieu m'appelle. Mais pour développer mon entreprise, il y a tellement de choses que je n'ai pas pour démarrer ce projet. Il y a tellement de choses que je n'ai pas. J'ai pas la j'ai pas de puissance. J'ai pas de temps. J'ai pas la santé. J'ai pas la santé. Comment on fait ? J'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et dans, même dans notre contexte d'église, oui, mais on doit briller, mais j'ai pas de salle. On n'a pas de salle à nous. Ou parfois, même on dit à Dieu, j'ai l'impression, oui, j'ai, mais j'ai pas assez. J'ai pas assez de dons, j'ai pas assez de talents, j'ai pas assez de temps. J'ai pas assez d'intelligence, j'ai pas assez de finances. Les finances. Mais à travers cette histoire, Dieu nous dit, commence avec ce que tu as. Commence avec ce que tu as. Parfois, le problème, je crois, dans ma propre vie, parfois, le problème, c'est que on veut, avant de démarrer, on veut avoir tout. Seigneur, donne-moi un budget d'un million d'euros. Et là, ouais, c'est clair. Je fais ce que tu veux. Ça va péter. Mais Dieu, souvent, tout le temps, Dieu nous demande de commencer quelque part. De commencer avec ce qu'on a. De commencer avec ce que tu as dans tes mains. Sur le chemin, il va t'équiper. Et mais cela nécessite quoi ? La confiance en Dieu. La foi en Dieu, la dépendance en Dieu. Sérieux, Moïse avait quoi ? Un bâton. Waouh ! Un bâton ! Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Eh bien, ça a suffi pour ouvrir la mer en deux. Les disciples avaient quoi dans leurs mains ? 5 pains et 2 poissons. Waouh ! Pour nourrir 15 000 personnes. Quelqu'un est bon en maths ici ? L'armée de Gédéon avait quoi pour vaincre les Madianites ? Une cruche et une corne. Waouh, que c'est puissant alors. Moi, j'aurais pris un bazooka, j'aurais pris une Kalachnikov, je sais pas, quelque chose qui en jette, quoi. Mais j'aimerais te dire, la part de Dieu, tu n'as pas besoin de plus, tu as besoin de prendre ce qu'il y a déjà dans tes mains. Tu n'as pas besoin de plus, tu as besoin de voir ce que tu as déjà. Tu as besoin de voir ce que tu as déjà. Gédéon, il va dire, je suis le plus pauvre. Mais la Bible nous dit quand même dans Juges 7, 27, Gédéon n'était pas si pauvre que ça. Parce que Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs pour faire ce que l'Éternel avait demandé. À un moment donné, l'Éternel lui dit, tu vas abattre les poteaux de Baal, tu vas abattre les fausses idoles. Gédéon, il y va. Mais pas tout seul, avec 10 serviteurs. Mais 10 serviteurs, ce n'était pas la totalité de ses serviteurs, parce que c'est 10 serviteurs parmi ses serviteurs. Donc, il en avait plus que 10. Donc, il n'était pas si pauvre que ça. Combien tu as de serviteurs chez toi ? Ne répondez pas. Gédéon n'était pas si pauvre. Gédéon avait des chevreuils. Gédéon avait même une kilo de farine lorsqu'il a fait un autel pour à la gloire de Dieu. Il a fait un autel. Il avait de quoi dans sa maison. Lorsque Dieu rencontre Moïse dans son quotidien, il le rencontre, c'est un berger. Mais il le rencontre avec quoi ? Avec un bâton. Mais son bâton, c'est quoi ? C'est un bâton de berger. Je ne fais pas allusion au bâton de berger, enfin bref. C'est un bâton qui lui servait à marcher et qui lui servait à exercer son métier de berger, d'accord ? Mais Dieu lui dit, tu vas aller faire ce que je te demande de faire, libérer mon peuple, avec quoi ? Avec ce que tu as déjà dans tes mains et que ça fait des années que tu travailles avec et ça fait des années que tu l'as. Dieu ne veut pas te donner quelque chose de nouveau, mais il veut faire avec ce que tu as déjà dans tes mains. Amen. Et que tu trouves insignifiant, mais Dieu, et que tu l'as depuis des années, mais Dieu veut utiliser cela pour faire quelque chose à sa gloire. Tu as bien plus que ce que tu crois avoir. Peut-être que tu dis comme Gédéon, je ne suis pas assez courageux. Franchement, ceux qui ne me connaissent pas, je vous le dis, je ne suis pas courageux. Et quand je vois Gédéon, ça m'encourage. Gédéon dit à Gédéon, va démolir l'autel de Baal. La première chose qu'il lui dit, c'est va démolir l'autel de Baal. Après avoir conversé avec lui, après que Gédéon s'est rendu compte que c'était Dieu qui lui parlait, après avoir accepté tout ça, oui Seigneur, ok, première chose, premier acte d'obéissance, va détruire l'autel de Baal. Ok Seigneur, j'y vais. Il l'a fait, mais la nuit. La Bible nous dit qu'il est parti la nuit par crainte de sa famille et des habitants. Est-ce que Gédéon n'est pas comme nous? Ok Seigneur, je fais, mais caché quand même. Je me cache un peu quand même. Je fais, mais avec hésitation. Et nous voyons le processus dans la vie de Gédéon, parce que c'est ce même Gédéon-là qui est ici en train d'hésiter, qu'après, il a coupé la tête, il a tué les deux rois des Madianites, qu'il a détruit l'armée des Madianites, où il a gagné la victoire, où il a libéré le peuple tout entier des 130 000 soldats de l'armée Madianite. Mais c'est incroyable. Mais quoi, ça veut dire quoi? Que le courage n'est pas une émotion, mais une décision. En fait, tu as besoin de voir différemment. J'ai pas assez de courage. Non, c'est pas ça. Le courage, c'est pas genre je me sens super héros, quoi. Non. Le courage, c'est je me lève et j'y vais. Je le fais. Même si j'hésite, même si c'est difficile, même si j'ai l'impression de galérer, je le fais. Et c'est ça, être courageux. Ce n'est pas un feeling, ce n'est pas comment je le ressens, mais c'est un mouvement. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est aller au-delà de sa peur et oser se mettre en mouvement. Je dis tu es courageux, tu es courageuse. Je dis tu es courageuse. Je dis tu es courageuse. Peut-être que tu dis, j'ai pas assez de foi. J'ai pas assez de foi. Mais j'ai pas assez de foi, ok. Luc 17, 6 nous dit, Jésus qui avait à dire, si vous aviez la foi, le répondit le Seigneur, même aussi petite qu'un grain de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier-là, arrache tes racines au sol et va te planter de l'autre côté de la mer, dans la mer. Et vous obéirez. Waouh! Ok, mais de quoi parle Jésus? Un grain de moutarde. En fait, le grain de moutarde, c'était la chose qui était considérée la plus petite à l'époque. On ne connaissait pas le micro-ondes, du micro-ondes. D'accord? C'était le grain de moutarde, la plus petite chose qui existait à cette époque-là, c'était le grain de moutarde. Jésus est en train de dire, la plus petite des fois que tu as, c'est suffisant! C'est suffisant! La plus petite des fois que tu as. Et tu te dis, ma foi, elle n'est pas grande. Mais tu la mets en action, ça déplace des montagnes. Tu la mets en action, il se passe quelque chose. Tu la mets en action, Dieu agit de façon puissante dans ta vie. Déclare-le, crois-le cet après-midi. Crois-le cet après-midi. Quelle est la... Et là, il y a une chose que tu peux retenir de ce message, c'est ça. Quelle est la véritable force de Gédéon? Silence. Je ne sais pas. Mais en fait, la véritable force de Gédéon, c'est qu'il n'était sans force. C'est qu'il était sans force. Ta force est cachée dans ta faiblesse. Ta force est cachée dans ta faiblesse. Parce que quand tu commences à apprendre, à réaliser que sans Dieu, tu ne peux pas y arriver, alors tu deviens qualifié pour que la puissance de Dieu agisse au travers de toi. C'est dans les mains de Dieu que tes faiblesses deviennent une force. Répète encore, dis-le à ton voisin. C'est dans les mains de Dieu que tes faiblesses deviennent une force. Ah Jésus, aide-nous. Ma position de faiblesse dans un domaine de ma vie. Si je n'arrive pas dans un domaine financier, si je n'arrive pas dans le domaine professionnel, si je me sens faible, tellement faible dans un domaine de ma vie, alors que je peux expérimenter la puissance de Dieu dans ce domaine de ma vie. Moïse avait la langue embarrassée, ok. Pourtant, elle a libéré le peuple d'Israël. Jérémie, on lui a dit que c'était un enfant. Abraham, on lui a dit qu'il était trop vieux. Rahab, c'était une prostituée. Pourtant, elle fait partie de la généalogie de Jésus. Ta position de faiblesse, Dieu veut le transformer en une force. Parfois, on veut avoir des résultats, mais on ne va pas passer par le problème. Mais pour avoir un résultat, il faut un problème. Donc, ne refuse pas le problème dans ta vie. Mais dis, Seigneur, merci pour le problème, parce que ce problème-là, c'est toi qui vas trouver une solution. Ce problème-là, tu vas en faire une source de bénédiction pour quelqu'un. Ce problème-là, tu vas le faire pour ta gloire, Seigneur Jésus. Ça sera pour ta gloire, Seigneur. De choisir les choses faibles, folles du monde pour confondre les fortes. De choisir les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Les folles pour confondre les sages, pardon. 2 Corinthiens 12, 9, 10. Ma grâce te suffit. Un jour où Paul dit, j'ai une écharpe dans la chair, j'ai quelque chose qui me fait souffrir, quelque chose qui me fait mal. Pas tout le monde est d'accord sur le problème qu'il a, on ne le sait pas, mais peu importe, il souffre. Super, ça on le sait. Et Dieu va lui dire, quand il va dire, Seigneur, enlève-moi ce problème-là, Dieu va lui dire, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Je vais répéter pour que ça rentre un peu plus. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Waouh. C'est pourquoi Paul dit « Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, car les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour Christ, car c'est alors que quand je suis faible, je suis réellement fort. » Et le mot grec « fort », c'est « dynatos », qui signifie « capable, influence, puissance ». Donc, quand je suis faible, je suis potentiellement puissant. Dieu veut t'utiliser, comme il a utilisé les Gédéons. Même avec, peu importe comment il se sentait faible et impuissant. Mais lorsque tu prends cette faiblesse, cette impuissance, ces capacités que tu n'as pas, cette force que tu n'as pas, et que tu les remets entre les mains de Dieu, tu expérimentes le Dieu Tout-Puissant. Donc Gédéon est appelé par Dieu, Gédéon est envoyé par Dieu, et Gédéon est aussi équipé par Dieu. Le problème, c'est qu'on pense que c'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui nous envoie, mais on doit s'équiper tout seul. Non, on ne doit pas s'équiper tout seul. C'est Dieu qui va t'équiper, c'est Dieu qui va te donner la force. Tu viens, tu dis, Seigneur, en moi, je n'ai pas la force, mais toi, tu es ma force. Quelqu'un le déclare, tu es ma force. Ton assurance ne se trouve pas dans tes compétences, mais dans le fait que Dieu soit avec toi. Et c'est mon dernier point. Ton assurance ne se trouve pas dans tes compétences, mais dans le fait que Dieu soit avec toi. Dieu va dire à Gédéon, maintenant qu'il a rassemblé 32 000 personnes, il va lui dire, ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites. Sinon, les Israélites s'en vanteraient à mes dépens, pensant que c'est par leur propre force qu'ils se sont délivrés. Donc, la stratégie de Dieu. OK, ils sont 130 000. Vous êtes 32 000. Je vais rajouter... Non. Je vais enlever le processus de Dieu. Je vais enlever tous ceux qui ont peur. Ils peuvent rentrer chez eux. Il reste que 10 000 sur 32 000. Seigneur, t'es sérieux? Le gars, il n'a pas trop confiance en lui et tu lui enlèves des gens? Ce n'est pas une stratégie que j'aurais adoptée. Et de 10 000, Dieu fait un autre tri et il se retrouve 300. 300 pour 130 000, 35 000. 1 pour 450. Waouh! C'est bon, c'est super équilibré, je trouve. C'est pas la stratégie. Qu'on aurait mis en place. Mais Dieu voulait apprendre quelque chose à Gédéon. C'est que Dieu seul lui suffisait. Dieu seul te suffit. C'est facile. Tu sais, je peux te dire, je suis avec toi. Je suis avec toi dans ce que tu traverses. Super. Mais il y a un autre poids quand Dieu te dit « je suis avec toi ». Est-ce qu'on peut réaliser cela? Réaliser quand Dieu te dit « Je suis avec toi, mon regard est sur toi. Je suis réellement avec toi, le Dieu de l'univers est avec toi. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Avec Dieu, j'aimerais te dire que tu as la majorité. Avec Dieu, tu as la majorité. Ce qui est impossible à Dieu est possible aux hommes. Et peut-être que tu te dis, pour accomplir ce que Dieu me demande de faire, il me manque tellement de gens. Je n'ai pas assez de connexions pour avoir une percée dans ce travail-là. Je n'ai pas assez de relations pour m'aider avec mes enfants. Je n'ai même pas de mari, je n'ai même pas d'enfant. Il me manque tellement de choses pour accomplir le projet de Dieu. Mais le plus important, Église, c'est que Dieu marche avec toi. C'est que Dieu est présent avec toi. C'est que Dieu t'appelle par son nom. Il va dire à Gédéon trois fois, le Seigneur, il va lui dire « Je suis avec toi » trois fois, à chaque fois que Dieu a parlé à Gédéon, à chaque fois Dieu lui a dit « Je suis avec toi » comme pour lui rappeler, comme pour lui dire « Gédéon, c'est pas toi, c'est moi. Le Seigneur est avec toi, vaillant combattant courageux. Va avec cette force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie ? Je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites. » Gédéon, le peureux, Gédéon qui avait peur, Gédéon qui n'était pas soi-disant courageux. Comment est-il devenu ce que Dieu avait dit qu'il était ? Parce qu'il a cru simplement que Dieu était avec lui et il a pu se mettre en mouvement. Cette conviction, cette certitude, cette compréhension l'a amené à avoir l'assurance. Et je crois que ce même Dieu qui a rendu capable Gédéon est avec toi cet après-midi. Le même Dieu qui a libéré le peuple d'Égypte, l'Israël, a libéré à travers Moïse, est avec nous cet après-midi. Et cette vérité doit me donner de l'assurance. Ce n'est pas une question de qu'est-ce que je pense de moi, ce n'est pas une question de qu'est-ce que j'ai en fait, mais c'est une question de qui m'envoie et qui est avec moi. C'est simple. Mais Gédéon l'ange dit à Gédéon, je serai avec toi. Et ça nous fait penser à, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. C'est exactement la même mot, exactement la même expression qui est utilisée en hébreu. Je serai avec toi, comme il a dit à Moïse, je serai avec toi. Alors que Dieu est en train de lui dire, oui, je suis là, et pasteur Mathieu nous l'avait dit, lui, oui, je suis là avec toi, mais je suis déjà aussi en Égypte. Je suis déjà là-bas. Déjà, je prépare le chemin pour toi. Déjà, je marche avec toi. Je suis ici, je suis en train de marcher avec toi, mais je suis aussi là-bas, en train d'agir pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Ouais. Alléluia. Je vais appeler l'équipe de louanges à venir alors que je termine. On peut réaliser que parfois Dieu peut nous prendre des gens comme il a pris à Gédéon et qu'on pensait indispensable dans notre vie, dans nos relations. Mais comme disait pasteur Joël, si Dieu t'enlève des relations, c'est que dans cette saison, tu n'as pas besoin d'eux. C'est que dans cette saison, Dieu sait ce qu'il fait avec toi. Tu n'as pas besoin d'eux pour accomplir la volonté de Dieu. Dieu seul te suffit. Dieu seul te suffit. Alléluia. J'aimerais que tu puisses réaliser que oui, Dieu veut se servir de nous. Oui, Dieu veut m'utiliser. Oui, avec ce que j'ai. Oui, Dieu est avec moi. Et dans ce passage, on voit aussi que la présence de Dieu avec toi se matérialise aussi. Alors, par rapport à ce que je viens de dire avant, s'équilibre aussi avec le fait que Dieu place des gens près de toi. Dans cette histoire, on voit le messager de l'Éternel s'asseoir, comme on l'a dit au début. Le messager de l'Éternel s'assoit à côté de Gédéon et il parle avec lui. Mais Gédéon ne sait pas que c'est Dieu, ne sait pas que c'est l'ange de l'Éternel. Est-ce que ça se pourrait que quelquefois, Dieu te mette des gens à tes côtés? Dieu te mette des envoyés de l'Éternel à tes côtés, mais qu'en fait, tu ne savais pas que c'était Dieu. Jacob va dire, assurément, l'Éternel était ici avec moi, mais je ne le savais pas. Se pourrait-il que tu dises, mais Dieu est où dans ma vie? Où est Dieu? Je ne le vois pas. Où sont les prodiges? Où es-tu, Seigneur? Alors qu'il est juste à côté de toi, là. Il est là à travers Fabien. Il est là à travers Fabrice. Il est là. Il est là. Il est là à travers Johan. Sous la forme que je ne m'attends pas. Mais l'Éternel est là. L'Éternel est là. Alors qu'on puisse réaliser, ne pas mépriser les gens que Dieu place à nos côtés. Parce que c'est souvent la réponse que Dieu t'a donnée. C'est souvent la réponse que Dieu t'a donnée. J'aimerais rappeler en conclusion que la force de Gédéon, c'était de savoir qu'il n'avait aucune force sans Dieu. Le chemin de la dépendance, c'est le processus où Dieu t'amène à dépendre de lui dans ta faiblesse. Dans ta faiblesse. Et alors qu'on va terminer ensemble, est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? En conclusion, j'aimerais citer ce passage. Isaïe 40, 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils prennent le vol comme les aigles. J'aimerais te dire, tu n'as pas besoin de plus de force. Tu as besoin que tes forces soient renouvelées. Et alors qu'on va passer un temps, juste on va lever les yeux vers Dieu, on va chanter ce chant. Dire, Seigneur, oui, j'ai besoin que mes forces soient renouvelées. J'ai besoin que mes forces soient renouvelées. On va chanter ce chant devant Dieu avec foi, avec confiance. La force augmente pendant la marche. La force augmente pendant la marche. Le Seigneur regarde comme il l'a regardé Gédéon, il te regarde et il te dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Oui, c'est moi qui t'envoie. Tu peux expérimenter le Dieu de Gédéon et te mettre en mouvement. Tu peux expérimenter le Dieu de Gédéon cet après-midi. Lève tes mains vers le ciel, on va chanter ce chant.